L'homme doit être assez fort pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger. C'est cette pensée de John Maxwell qui vient planter le décor de votre émission Interligne de ce jour. Madame, monsieur, auditeurs et auditrices de la 105.5 MHz, c'est toujours un immense régal pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission. Interligne, un programme qui chaque semaine vous fait découvrir une nouvelle start-up promue par un jeune ou un groupe de jeunes. Objectif, promouvoir, valoriser, encourager, mais aussi et surtout inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat. À côté de ce volet, Interligne s'intéresse également à tout ce qui est mode, à toutes les nouvelles habitudes des populations, aux natures des relations qui lient les uns aux autres, ainsi qu'aux difficultés et faits marquants de la société. Interligne, ce sont vos rubriques habituelles, les incubateurs du Sahel, Tape à l'œil et Vide ton sac. Dans le cadre de la rubrique « Les incubateurs du Sahel » de ce jour, nous avons déroulé le tapis rouge à la start-up Al Moussafa, une entreprise qui fait dans la production et la commercialisation de l'eau potable en bouteille et en sachet sous le label éponyme. Nous allons recevoir dans notre fauteuil de l'invité M. Adoum Ousmane, promoteur de cette marque d'eau. Le décapage de la peau, une pratique qui va grandissant dans la région de l'extrême nord. Un phénomène qui pourtant entraîne plusieurs conséquences. On en parle dans la rubrique « Tape à l'œil ». Les relations enseignants et apprenants entre tumultuité et harmonie. C'est le sujet au cœur de la rubrique « Vie de ton sac ». Avec vous, chez vous et pour vous, Maxino à la mise en onde, Steve Feuby à la réalisation, David Bayon à la coordination générale, je suis Lydie Iudata à ce micro de présentation. Bienvenue à tous. Nous marquons, amis auditeurs, la première halte de cette émission pour sacrifier à la tradition et prendre la rubrique réservée aux incubateurs du Sahel qui, cette semaine, braque ses projecteurs sur la start-up dénommée Al Moussafa, une jeune structure qui fait dans la production et la commercialisation de l'eau potable en sachet et en bouteille. Adoum Ousmane, son promoteur, est dans le fauteuil de l'invité, question de nous parler de cette entreprise en place depuis 2 ans seulement. Son entretien à suivre dans un instant.
Moi, c'est Adoum Ousmane. Je suis promoteur de la start-up Al Moussafa, ici à Maroua.
Merci de répondre présent à notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
D'emblée, dites-nous, que devons-nous savoir au sujet de votre start-up Al-Mustapha? C'est quoi exactement? Quels sont vos champs d'action?
La start-up Al-Mustapha, c'est une entreprise qui fait dans l'eau potable la production, la distribution et la vente d'eau Al-Mustapha. Notre champ d'action, c'est produire et vendre dans la ville de Marwa. Pour l'instant, on se situe d'abord dans la ville de Marwa.
À entendre Al-Mustapha, l'impression qu'on a est que c'est un nom propre. Ma question est celle de savoir pourquoi avoir choisi ce nom pour votre start-up. Pourquoi n'avoir pas choisi un nom qui renseigne plutôt sur les services que vous offrez?
Bon, Al-Mustapha, c'est pas un nom propre, c'est un nom tiré de la langue arabe. Quand on parle de Al-Mustapha, c'est on peut diviser ce nom. Al-Mustapha, c'est un préfixe. Mustapha, c'est filtré. On peut dire Al-Mustapha, c'est le filtré en français. Oui, en arabe, c'est Al-Mustapha, mais en français, on peut dire c'est le filtré. Et comme nous sommes dans la vente ou la production de l'eau, alors on a pris ce mot arabe Al-Mustapha. Oui. C'est pourquoi on a choisi ce nom. Ce n'est pas un nom propre, c'est le nom juste de l'entreprise Al-Mustapha. C'est un nom arabe, oui, qu'on a donné à notre entreprise.
Quelles sont les raisons qui ont poussé à la création de Al-Mustapha? Quelles ont été vos motivations?
Bon, pour tout entrepreneur, c'est d'abord, la recherche du gain peut-être et la recherche du bien-être. Mais la principale raison qui nous a poussé, c'est qu'on, ici à Marwa, Marwa Seydia, une grande ville, et nous on s'est rendu compte que l'eau qui vient de l'extérieur, on peut dire d'une région, d'une autre région, à une période donnée n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas à la consommation locale. Les gens sont butés à la pénurie. Et nous avons déjà cette structure Al-Mustapha depuis le logo Nechari, depuis Kousseri. Et on s'est rendu compte que non. Transporter l'eau d'une localité à l'autre, c'est un peu difficile. Alors on a pensé à satisfaire, à aider l'autre concurrent pour la mise au marché d'une eau potable qui doit aussi aider la population à se débarrasser de l'eau non traitée, tout ça. C'est ça qui nous a motivés à créer cette entreprise et aider la population de Marwa.
D'accord. Dites-nous, quand est-ce que votre entreprise a été mise en place? Al-Mustapha existe depuis combien de temps déjà?
Ici à Marwa, Al-Mustapha existe déjà depuis plus d'un an. On est déjà, ça c'est notre deuxième année. On avait d'abord commencé, vous savez, comme toute entreprise, le début est difficile, mais on a essayé de supporter les aléas de gauche à droite. Mais c'est notre deuxième année, la création d'Al-Mustapha. Al-Mustapha à Marwa, déjà 2 ans.
Généralement, ce sont les ingénieurs qui pensent ce genre de projet. Dites-nous, est-ce que vos études académiques ont un lien avec cette start-up que vous êtes parvenu à mettre sur place?
Bon, on a les ingénieurs qui travaillent avec nous, c'est pour la production et la vérification de la qualité de l'eau. Moi je ne suis pas un ingénieur, moi je suis économiste de formation et enseignant, je suis conseiller d'orientation. Je me suis lancé dans ça, c'est pas en tant qu'ingénieur, mais je me suis dit que c'est quelque chose qui peut aider la population et qui va aussi m'aider par la suite. Ouais.
Avez-vous un siège propre à l'entreprise?
Oui, Al-Mustapha, on a un siège propre à Kousseri. L'entreprise mère d'Al-Mustapha, c'est Kabir Sar. Oui, ici, Al-Mustapha Marwa, c'est juste une branche de Kabir Sar. Oui, qui est une entreprise qui a fait déjà ses preuves dans le logo Nechari. Et on est venu l'implanter ici à Marwa, juste pour la suite. Mais l'entreprise mère d'Al-Mustapha, c'est Kabir Sar, qui est déjà bien ancrée à Kousseri dans le logo Nechari, qui est connu de tout le monde.
Et ici à Marwa?
Oui, à Marwa, ici, Il y a d'abord l'entreprise elle-même et nous sommes en train de construire maintenant le siège ici même à Dougoué dans les jours, on peut dire mois ou années à venir.
Jusqu'où s'étendent vos produits? Vous avez parlé de Kousséri, Maroua. Quelles sont les autres villes où on peut trouver vos produits?
Pour l'instant, notre produit, c'est seulement à l'extrême nord, en général. Le produit s'étend pratiquement dans toutes les villes de l'extrême nord. On peut trouver à Moussafa.
Comment se passe la commercialisation de vos eaux?
Oui, la commercialisation, comme toute entreprise, nous avons des commerciaux, nous avons des partenaires avec lesquels on travaille, on leur donne une quantité suffisante d'eau et eux, ils se mettent à distribuer. C'est comme les entreprises, la production, la vente et la distribution, autant pour moi, la distribution et la vente.
Il existe sur le marché plusieurs types d'eau, dites potable. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de votre eau? Pourquoi devons-nous acheter de l'eau de la marque Al Moussafa? Qu'est-ce qui fait votre spécificité sur le marché?
Bon, il est bien vrai qu'il existe plusieurs types d'eau. Nous, avant de produire cette eau, on s'est conformé à la loi qui est... On fait aussi des tests chaque 3 mois. On prend un échantillon de l'eau sorti robinet, sorti aussi de la pompe du forage. On envoie cette eau au laboratoire, soit au centre Pasteur de Garoua ou bien au ministère de ministère de l'Industrie et du Développement Technologique pour faire le test. Chaque 3 mois, nous avons un échantillon qu'on envoie pour voir la qualité de l'eau. Est-ce que la qualité a changé? Est-ce que la qualité n'a pas changé? Mais Dieu merci, jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons, Al Moussafa est la meilleure parmi les eaux vendues ici à Maroua. Et la preuve en est, vous pouvez aussi poser des questions à nos consommateurs. De temps en temps, nous avons les félicitations des consommateurs qui viennent nous dire vraiment c'est une eau consommable, c'est une eau potable, c'est une eau bien légère et elle est propre à la consommation.
Dites-nous à présent, Monsieur Adoum, quelle relation est-ce que vous entretenez avec la jeunesse de l'extrême nord? Je veux dire, est-ce que vous organisez très souvent des formations pour jeunes? Est-ce que vous recrutez les jeunes au sein de votre entreprise? Question de contribuer aussi au problème du chômage que connaît notre pays.
Pour l'instant, la formation de jeunes, on ne l'a pas encore implantée dans la start-up. Mais c'est dans notre cahier de charge. Oui, d'ici peu, nous allons organiser la formation, nous allons faire des journées portes ouvertes. Et l'emploi de jeunes, on peut dire, à l'heure actuelle, nous avons au moins 2 à 3 employés permanents et des employés de, comment on peut dire, des circonstances. Le jour où la demande est un peu forte, nous recrutons des gens selon les circonstances. Oui, mais pour l'instant, nous employons des jeunes de Maroua, nous avons des employés permanents et des employés de temps partiel.
Gérer une start-up, on le sait, n'est généralement pas facile. Alors dites-nous, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites généralement face?
Bon, la difficulté, comme vous venez de la citer, elle est générale pour les nouvelles start-up. Il y a d'abord les problèmes financiers, le problème de confiance, le problème de remontée de fonds. Bref, beaucoup de problèmes nous sont confrontés. Le problème de manutention, le problème de transport, les routes qui ne nous donnent pas du lait, oui, qui endommagent de temps en temps nos motocyclettes, nos petites voitures pick-up qui sont pour la distribution de l'eau. Mais comme vous venez de le dire, le problème est là. Mais on fait avec. D'ici peu, on remédie de temps en temps. C'est quand il y a les problèmes que les solutions arrivent. On ne peut pas avoir des solutions sans problème. Mais on va remédier à cela avec le temps.
En dépit de ces difficultés, peut-on dire que la start-up nourrit son homme à 2 ans d'existence déjà?
Oui, pour l'instant, nourrir son homme, c'est trop dit. Mais on essaye avec le peu qu'on a. Mais on ne se plaint pas. Et ça va aller avec le temps.
Dites-nous, quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse camerounaise en général et à celle de l'extrême nord en particulier pour que dans l'ensemble, elle sorte de sa zone de confort et met la main dans la pâte?
Bon, le message que je peux adresser à la jeunesse camerounaise, c'est qu'il ne faut pas y baisser les bras. Oui, c'est en affrontant les difficultés qu'on peut avoir espoir dans l'avenir. Et la jeunesse de l'extrême nord en particulier, il y a plusieurs opportunités. Comme notre start-up Al-Moussa Fassa, c'est juste un exemple. Mais les opportunités à Maroua ou bien à l'extrême nord, il y a plusieurs opportunités. Il faut que les jeunes ouvrent les yeux, se mettent ensemble et discutent sur ce qu'il faut faire. Mais sinon, à l'extrême nord, il y a plusieurs opportunités pour les jeunes. Mais c'est les jeunes qui ne veulent pas voir où se trouve vraiment l'opportunité. Mais il y a les opportunités ici.
Pour finir, monsieur, quels sont les contacts par lesquels on peut vous joindre? L'entreprise a certainement une page Facebook, un compte WhatsApp.
Oui, le compte WhatsApp. L'entreprise a au moins 2 comptes WhatsApp. Oui. Et le compte Facebook, on veut prendre un compte Facebook professionnel. C'est en marche. Nous avons notre email. Tout ça, l'entreprise a toutes ces choses-là. Le numéro sur le 677 54 84 07. C'est le compte WhatsApp de Kabir Sarr, le même entreprise mère. Et le 679 39 39 39. Ça, c'est le compte WhatsApp de Al-Moussafa en Maroua. 677 54 84 07. Et le 679 39 39 39.
Monsieur Adoum Ousmane, promoteur de la start-up Al-Moussafa, il ne me reste que de vous remercier. Merci d'avoir parlé à la radio série.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Adoum Ousmane, promoteur de la start-up Al-Moussafa, un très bel exemple à suivre par la jeunesse tout entière. Nous lui souhaitons tout simplement une bonne continuation. Peut-être de nous rejoindre, amis auditeurs. Sachez que vous êtes à l'écoute de votre émission Interligne. La rubrique Tape à l'œil de ce jour s'intéresse au décapage. Le décapage de la peau, communément appelé Ndiangsang, est le fait de s'éclaircir la peau par des procédés de plus en plus innovants et risqués, selon l'avis des spécialistes de la santé. Les méthodes de décapage qui voient de plus en plus le jour sont très prisées par les jeunes femmes qui veulent paraître plus belles et n'hésitent donc pas à utiliser des laits et savons de toilettes décapants, des injections ainsi que des gélules et boissons éclaircissantes. Le fait de se décaper la peau est devenu une mode. La pratique recrute presque chaque jour des nouveaux adeptes. Ce qu'il faut savoir est que la dépigmentation de la peau peut avoir des effets néfastes néfastes comme les problèmes de peau, des risques de développer des cancers, des maladies cardiovasculaires et pour ne citer que cela. Ces conséquences semblent ne pas décourager les adeptes de cette pratique qui se recrute tant chez les jeunes que chez les moins jeunes. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette frénésie vers le blanchiment de peau? Les adeptes de cette pratique sont-ils conscients des risques qu'ils encourent? Je vous propose d'écouter quelques avis recueillis sur la question.
Déjà, moi, je suis contre le décapage de la peau parce que quand quelqu'un se décape, c'est d'abord manquer du respect au Créateur. Parce que quand Dieu t'a créé, t'a fait noir, ce n'est pas à toi de changer parce qu'on ne demande pas ton avis. Accepte-toi comme tu es et comme ça tu pourras mieux vivre. Et quand on se décape même encore sur le plan sanitaire, ça a des impacts très négatifs. Quand on veut accoucher, on connaît des complications. On ne peut pas t'opérer une à deux fois, ça ne peut plus marcher. Et tout ça, c'est à cause du décapage. Donc, c'est là quelques détails négatifs que les filles ne parviennent pas à cerner. La beauté, elle n'est pas seulement corporelle. La beauté, elle est d'abord dans la tête.
Se décaper la peau, pour moi, c'est déjà une sorte de moquerie. Voilà, on se moque de Dieu le Père, on se moque de notre Créateur. C'est une moquerie. Et je trouve que les raisons sont, entre autres, le mimétisme. On veut imiter l'Occident, qui est, lui, de nature, avec une peau blanche. On veut les imiter, on veut être comme eux, avec une peau blanche aussi. C'est entre autres ce qui pousse nos filles à la peau noire, à se décaper. Pas seulement même filles, parce que de plus en plus, on peut voir ces hommes qui eux aussi se décapent la peau. Tout le monde est beau et belle, parce que généralement, c'est la recherche de la beauté, en fait, plus belle. On pense que c'est étant blanche, brune, qu'on peut l'être. Il faut d'abord qu'on ait en tête que tout le monde, sans exception, peu importe notre couleur de peau, nous sommes tous beaux et belles.
Des filles qui se décapent, moi je dirais peut-être parce que le monde aujourd'hui on dit qu'elle est moderne et que les filles se décapent juste parce que elles veulent être blanches, elles veulent avoir la peau blanche et ressembler aux blanches des occidentaux et tout ça. Et moi je dirais que ce n'est pas une bonne chose parce que la peau naturelle, si Dieu te l'a donnée, faut la garder ainsi. Donc avoir la peau naturelle, c'est une bonne chose.
Pour les filles qui se décapent la peau, pour ce que moi je pense, la motivation d'abord vient de leur entourage en fait. Parce que d'autres filles se voient brunes, bon, se voient belles avec leur teint et sont plus en contact avec des garçons. Et pour celles qui sont noires, qui ont la possibilité de se décaper, elles se disent non, pourquoi ne pas se décaper pour aussi attirer les hommes? Parce que celles qui sont brunes, les garçons s'intéressent à elles. Pourquoi pas elles aussi qui sont noires et qui peuvent aussi changer leur peau et être aussi comme les autres. Bon, pour moi, se décaper, c'est pas une bonne chose. En fait, la nature nous a doté de la couleur de la peau. Ceux qui sont noirs, par exemple, quand ils se décapent, non seulement ils sont exposés aux différentes maladies, au rayonnement du soleil, parce que la mélanine nous protège contre beaucoup de choses. Et elles ne savent pas, quand elles se décapent, surtout en période de chaleur, elles sont exposées à de nombreuses maladies, surtout quand on les opère. La chirurgie ne peut pas recoller les parties déjà déchirées parce que la mélanine est détruite et quand on essaie de coudre, la chair lâche. Et c'est pas une bonne chose. Je conseille à ces filles de garder leur peau, qu'on les aime telles qu'elles sont, qu'elles soient noires, qu'elles soient brunes. Un homme qui va les aimer sera toujours disponible. Celui qui ne t'aime pas va te dire de changer, mais celui qui t'aime va te dire de garder ta peau.
Selon moi, la raison qui pousse les filles à se décaper, c'est peut-être le suivisme. Dans la vie même, il y a certaines personnes qui pensent que c'est quand tu es peut-être à la peau brune qu'on va beaucoup plus venir vers toi. Déjà, tu es attirante. C'est ça qui pousse beaucoup plus les jeunes filles à se décaper de nos jours, selon moi. Je pense de ce phénomène que c'est un phénomène qui est peut-être mortel, si on peut le dire ainsi, parce que ça conduit souvent à la mort. Quand peut-être que tu tombes malade, au moment de la chirurgie, on n'arrive même pas à remettre les choses sur place parce que ta peau est déjà trop fine.
Moi, j'ai aucun problème avec les filles qui se décapent. C'est vrai que le décapage n'est pas bien. Et à la longue, il crée de nombreuses complications dans la vie de la personne, notamment du côté hygiénique et au niveau de sa santé. Je crois en plus de ça que ce qui pousse ces filles à se décaper est avant tout ce complexe d'infériorité qu'ils ont en eux. Et je crois qu'ils devaient prendre confiance en eux et ne devaient pas prendre la peau noire pour une mauvaise peau en fait.
Les filles qui se décapent, elles cherchent ce qu'on appelle naturellement la beauté. Elles veulent impressionner les hommes. C'est un peu ça. Cela est très très compliqué parce que ça engendre souvent d'autres maladies. Des maladies de la peau telles que le cancer des seins, du col de l'utérus ou autre.
Et quand on dit le décapage de la peau, moi j'ai dit d'abord que la beauté, elle n'est pas toujours physique. Il faut d'abord la beauté intellectuelle, la beauté morale.
Vouloir paraître belle et séduisante est légitime, mais ne perdons pas de vue, chers amis, auditeurs et auditrices, que le blanchiment de la peau n'est pas sans risque. Sommes-nous prêts à hypothéquer notre espérance de vie au seul prix de la séduction ou d'une beauté éphémère? N'ayant pas honte de notre peau, n'ayant pas honte de nous, car nous sommes tous beaux et belles à l'image de celui qui nous a créés. Et surtout, assumons-nous tels que nous sommes et ne prêtons pas l'oreille attentive à ceux qui voudraient nous dévaloriser. La relation entre élèves et enseignants est un facteur clé de la réussite scolaire, particulièrement chez les plus jeunes. Cette relation se doit donc d'être chaleureuse et pacifique. L'enseignant est celui-là qui éduque, qui encourage, qui oriente l'apprenant. Être à l'écoute, s'impliquer activement dans les activités qui se déroulent en classe, féliciter les élèves pour leurs efforts et participation en classe sont des exemples d'actions que doivent poser les enseignants qui s'investissent dans leurs relations avec les élèves. Bien qu'il faut souligner que certains élèves ne facilitent aussi pas la tâche à ces derniers. Écoutons quelques enseignants et élèves qui se sont livrés à notre micro.
D'abord, l'enseignant, c'est quelqu'un qui éduque, qui nous inculque des valeurs morales. Donc, on se doit d'avoir une relation très naturelle. Moi, personnellement, avec mes enseignants, j'ai une relation amicale. Même mes enseignants femmes, je n'ai jamais connu de problème dans mon cursus scolaire. Mes enseignants, c'est comme mes mamans, c'est comme mes parents. C'est comme ça, on a une relation très naturelle. Et ça coule quand on est à l'école. Je n'ai jamais eu de problème avec un enseignant parce que l'objectif, c'est d'apprendre. Il y a d'abord cette relation-là, de prendre quelque chose, parce que l'enseignant, quand il est devant toi, c'est parce qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas, que tu veux apprendre. Et donc, cette posture-là te permet déjà de respecter la personne, de tirer quelque chose de lui. Et donc, quand j'ai une personne, un enseignant devant moi, je le respecte énormément parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas et que je veux avoir. Donc, c'est un parent, c'est un ami, c'est un grand frère, c'est des parents, quoi.
La relation que j'entretiens d'abord avec mes enseignants, elle est pacifique. Tout d'abord parce que j'aime acquérir des connaissances et si possible, si j'ai envie de connaître certains trucs sur l'enseignement, je pars, disons, les rencontrer et comme ça, ils m'aident et, disons, me montrent quelle direction et du coup, elle est pacifique.
J'entretiens une relation très amicale avec mes anciens, surtout mon ancien d'anglais. C'est un ancien que j'apprécie beaucoup parce que la langue anglaise, c'est une langue que j'aime et ma matière préférée.
Bon, en plus, j'ai des anciens qui sont un peu pour moi comme des parents en fait. qui me conseille, qui m'apprend certaines choses. Comment est-ce qu'il faut se comporter quand tu pars dans une ville où tu es étranger? Et les études, comment est-ce qu'il faut faire pour réussir à ses examens normalement, pour avancer dans les études normalement? Et c'est la chose qui me plaît avec ces anciens qui sont comme des coachs, des parents en fait pour moi.
Je n'ai presque pas de relation avec mes enseignants. Quand ils viennent faire leur cours, je suis là. S'ils ne sont pas là, je ne suis pas aussi là. Moi, je n'ai pas de relation avec mes enseignants.
J'entretiens de très bonnes relations avec mes enseignants. Je viens à l'école, j'étudie et je réponds bien aux questions. Et je crois que chaque enseignant cherche avant tout la réussite de chacun de ses élèves. Et même si on dit souvent qu'ils entretiennent, ils exagèrent, moi je ne trouve pas. Et je cherche juste à mettre la pression pour que l'élève se mette au travail et puisse réussir à son examen ou pas.
Vous savez, en tant qu'enseignant, on rencontre plusieurs catégories d'élèves. Nous avons des élèves timides, turbulents, intelligents, moins intelligents. La catégorie qui pose le plus problème est celle des apprenants turbulents. Moi, en tant qu'enseignante, ce que je fais avec ce genre d'apprenants, c'est que lorsque j'entre en classe, j'interroge ces derniers. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce qu'une fois qu'ils ratent une réponse, leurs camarades seront là pour se moquer d'eux. Et ces élèves ne supportent pas les moqueries. Ils se taira. Parfois, ils se tait. Parfois, ils ne se tait pas. Une fois qu'on remarque qu'ils ne se tait pas, ce qu'on fait, c'est quoi? Je parle de moi. Ce que je fais, c'est que lorsque je donne des travaux de groupe à faire en classe, je choisis comme chef de groupe l'élève turbulent. En choisissant cet élève turbulent-là, il ne fera pas le désordre parce que, en tant que chef, il se doit de diriger le groupe. Et quand vous, l'enseignant, vous lui dites « Tu es le chef de groupe, si quelqu'un perturbe, tu me fais signe », vous savez très bien qu'il ne vous fera pas signe parce que celui qui trouble généralement, c'est lui. Et comme il n'a pas la possibilité de troubler, il est obligé de travailler. Toujours mettre au travail l'apprenant le plus turbulent. Moi, c'est ma logique, c'est ce que je fais et ça marche toujours, à tous les coups. Ça se passe bien avec eux. Je pense que lorsqu'un apprenant sait que son enseignant fait bien, lorsqu'un apprenant voit que son enseignant maîtrise la matière, ça se passe bien, on n'a aucun problème. Moi particulièrement, je ne rencontre pas de difficultés. Je n'éprouve pas de difficultés avec ces apprenants parce que je m'arrange toujours à maîtriser ce que je vais leur inculquer comme notion. Est-ce que j'ai déjà frustré les apprenants? Je dirais oui. Je suis à ma troisième année. Les deux dernières années, je vous assure, je frustrais vraiment les apprenants. J'étais ce genre de professeur, de dame, qui était sévère. Je ne blaguais pas avec les apprenants. J'entrais toujours en classe avec le visage serré. Je ne laissais la possibilité à aucun élève de me montrer, en fait, une certaine facette de lui. Je faisais mon cours normalement. Je dispensais normalement le cours, je m'assurais que ces élèves-là comprenaient ce que je faisais. Mais je ne blaguais pas avec eux en fait. Et je me suis rendu compte à un certain moment que ça les frustrait. Au point où lorsque vous interrogez un enfant, vous savez pertinemment qu'il connaît la réponse, mais il est incapable de donner sa réponse. Pas parce qu'il ne connaît pas, mais parce que l'enseignant qui se trouve en face de lui ne lui montre pas qu'il sera réceptif. Il a donc l'impression que l'enseignant est fâché, que l'enseignant va lui faire un truc. Pourtant, rien. J'ai été élève, j'ai été étudiante, je sais ce que ça fait d'avoir ce genre d'enseignant. En fait, je ne me rendais pas compte de ça. Au fil du temps, j'ai compris parce que dans toutes mes classes, la réaction des élèves était pareille. Je me suis rapprochée des collègues, je leur ai demandé si tel élève est comme ci, comme ça. Ils me disaient non. Et un enseignant m'a une fois dit que c'est l'excès de charisme, on va dire. Depuis lors, j'ai changé. Maintenant, j'entretiens toujours la relation pédagogue-apprenant, mais de façon plus free, on va dire, de façon plus libérée. Et ces apprenants-là, aujourd'hui, n'ont plus peur de poser des questions, de dire ce qu'ils pensent. Et c'est de plus en plus bien, en fait.
La relation entre enseignants et élèves se doit d'être pacifique, question de faciliter l'apprentissage des apprenants. Et pour ce faire, tous deux ont un rôle à jouer. Les enseignants, seigneurs de la craie, sont des mentors, des exemples que veulent généralement suivre les élèves à leur sortie de l'école. Nous leur devons respect et considération. L'optimiste ne refuse jamais de voir le côté négatif des choses, il refuse simplement de s'attarder dessus. Amis auditeurs et auditrices, Interligne de ce jour, si vite que commencé, tire vers sa fin. Dans le cadre de la rubrique Les incubateurs du Sahel, nous avons parlé de la start-up dénommée Al Moussafa, une entreprise qui fait dans la production et la commercialisation de l'eau potable en sachet et en bouteille. Adoum Ousmane, son promoteur, était notre invité. Le Ndiangsang, un phénomène qui a la peau dure à Maroua, malgré ses multiples dangers. On en a parlé dans la rubrique « Tape à l'œil ». Et puis dans « Vie de ton sac », nous nous sommes intéressés à la relation enseignant-apprenant. Maxino était à la mise en onde de cette émission, Steve Feuby à la réalisation, David Bayon à la coordination générale. Je suis Lydie Ildata à la présentation. Bonne suite à l'écoute des programmes de radio au Séré qui se poursuivent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre livraison de votre émission Interligne. Vous pouvez aussi réécouter toutes les émissions précédentes d'Interligne sur www.radioaucéré.com. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.